Nous reprenons pour la dernière table ronde ou séance de ce colloque avec Pierre Laforgue, qui est professeur à l'Université de Bordeaux 3, qui a publié un nombre important d'ouvrages sur Baudelaire, dont je cite quelques-uns. Baudelaire dépolitiqué, 2002, Édipe à Lesbos, Baudelaire, la femme, la poésie, et enfin, Ut pictura poiesis, Baudelaire, la peinture et le romantisme. Il va nous parler de la peinture, et je crois qu'on ne nous a pas encore montré de tableau aujourd'hui. On en verra, on verra des tableaux. Il nous parlera de Courbet, Baudelaire et le réalisme en 1855.
Bien, alors avant de commencer, merci à Antoine Compagnon de m'avoir gentiment invité à ce colloque qui m'intéresse. Alors je vais essayer de manger le micro. Donc, en exergue de cette communication, je mettrai une exclamation de Blanqui, enfoncé. Les romantiques. Il est censé avoir prononcé cette phrase au soir du 29 juillet 1830. L'antiromantisme a pris toutes sortes de formes, de la satire à la parodie, en passant par la critique, pour aller jusqu'à la dénonciation et au refus pur et simple du romantisme. En ce sens, l'histoire du romantisme, c'est l'histoire de l'antiromantisme lui-même et inversement. Je m'attacherai non pas à une de ces multiples formes de l'antiromantisme, mais à l'un de ces moments, l'année 1855, qui est la grande année du réalisme en France. Aborder l'antiromantisme par le biais du réalisme s'impose à plus d'un titre, étant donné que le réalisme, tel qu'il est théorisé par Champfleury dans les années 1850, se présente sans aucune ambiguïté comme un antiromantisme. Mais ce n'est pas dire pour autant que le réalisme, pour antiromantique qu'il soit, et cela me semble être indiscutable, doivent être pensés comme l'antithèse du romantisme. Les choses, en effet, sont un peu plus complexes. Le caractère antiromantique du réalisme est moins une réaction en soi contre le romantisme qu'une inflexion du romantisme lui-même. Dès lors, l'hypothèse que je voudrais examiner, que cette inflexion du romantisme qui est à mes yeux le réalisme et auquel il est arrivé de prendre des aspects antiromantiques, ne relève pas tant d'une rupture esthétique que de la reconfiguration historique, politique, idéologique et philosophique du romantisme au début des années 1850. C'est pourquoi j'ai en vue, dans une perspective sociocritique, de réévaluer l'antiromantisme post-romantique, celui du réalisme. Plus encore, j'ai en vue, au terme de mon examen, de reprendre à nouveau frais la question inévitable de la modernité, celle-ci depuis des décennies étant définie comme l'antithèse du romantisme et de ce fait comme l'expression même de l'antiromantisme au lendemain de 1848. À mon avis, c'est une erreur de compréhension. J'essaierai de le montrer en m'appuyant principalement sur une œuvre de Courbet, L'atelier du peintre, exemplaire à mains égards, dans la mesure où ce tableau problématise tout ensemble antiromantisme, réalisme et modernité. Pour autrement dire, c'est du romantisme de Baudelaire à l'époque réaliste qui sera ici question. Alors, préalablement, pourquoi l'atelier du peintre et non pas plutôt un enterrement à Ornans ou les baigneuses ou les lutteurs ? Pour la simple raison que ces tableaux des années 1850-1853 relèvent d'un premier réalisme courbettien, en grande partie fondé sur une esthétique de la mimésis, et que l'atelier, de manière beaucoup plus profonde, formule une interrogation sur le réalisme lui-même, plus que sur la réalité. Sans doute, pour ce qui m'occupe, l'antiromantisme, le refus de l'idéalisation dont témoignent les premiers tableaux de Courbet, participe-t-il d'une prise de position critique et polémique à l'égard du romantisme, encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'absence d'idéalisation chez le Courbet de cette période. L'idéalisation ne peut-elle être que romantique ou classique? Mais l'atelier du peintre pose d'entrée de jeu la question du réalisme et des conditions de possibilité d'une représentation réaliste. C'est un tableau dont l'ambition est très clairement philosophique, illustrant le manifeste du réalisme que Courbet place en tête du catalogue de son exposition, de son exhibition, dit-il, de 1855. Avec les Ménines de Velázquez et l'art de la peinture de Vermeer, l'atelier de Courbet formule, selon le procédé de la mise en abîme, une interrogation essentielle sur la pratique du peintre, et ce tableau est un moment éminent de l'histoire de la peinture occidentale, celui du réalisme au temps du post-romantisme. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire de cette œuvre, elle est bien connue et a suscité une considérable littérature. Je m'en tiendrai à une lecture du tableau, car il est autant peint qu'il est écrit, et c'est comme un texte que je l'aborderai, à la façon même de Courbet expliquant son tableau proprement en analysant la structure et la composition dans deux lettres de novembre-décembre 1854, l'une à Bruyas et l'autre à Champfleury. Alors ces deux lettres, vous pouvez les lire dans la correspondance de Courbet chez Flammarion, présentée par Madame Chou. Ça se trouve page 119 et page 121-123. Alors, le tableau, maintenant. Voilà. Donc, je cite Courbet. « Le tableau, écrit-il, est divisé en deux parties. À droite sont les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. À gauche, l'autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens vivant de la mort. Cette composition binaire s'organise et prend sens autour de la figure du peintre, au centre exact de la toile, je suis au milieu peignant. La figure du peintre apparaît comme la clé de voûte de la configuration picturale. Autour de lui, tout se distribue. Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque le projet de Courbet dans ce tableau est d'offrir une représentation métapicturale de l'acte de peindre, différent cela d'un autre tableau dont on l'a rapproché, l'enseigne de Gersin de Watteau. Contrairement à la description qui est faite par Courbet, l'ensemble n'est pas statique, mais dynamique. En l'occurrence, le tableau est soumis à un mouvement de la droite vers la gauche. On entre dans le tableau, comme on entre dans l'atelier, par une porte, celle qui se trouve derrière Baudelaire, à l'extrême droite. Ainsi qu'on peut le remarquer, ce mouvement de droite à gauche désigne le personnage du chasseur à l'extrême gauche comme l'élément qui aimante le regard du spectateur. Cette vectorisation de la composition contribue à orienter la signification de l'ensemble. La dynamique elle-même de la composition, orientée de la droite vers la gauche, est portée par une structuration triangulaire très clairement repérable, dont les trois éléments sont constitués par les figures du peintre au centre et celles de Baudelaire à l'extrême droite et du chasseur à l'extrême gauche. La vectorisation de droite à gauche et la triangulation ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Au contraire, elles se combinent entre elles et dessinent ensemble une véritable scénographie picturale. Il faudrait maintenant examiner très précisément les relations que les trois figures de Baudelaire, du peintre et du chasseur entretiennent chacune avec les autres, mais compte tenu de ma problématique qui est centrée sur le rapport entre antiromantisme, réalisme et modernité, la figure dans cette composition à laquelle j'accorderai une importance particulière est celle du chasseur. J'y insiste, il ne s'agit pas de survaloriser cette figure. Cette tentative serait vouée de toute façon à l'échec, puisque le tableau, de manière indiscutable, se focalise sur la figure du peintre, autour de qui le sens se fédère. Seulement, une partie de ce sens s'élabore dans la figure du chasseur, et c'est dans la perspective limitée qui est la mienne, que je travaillerai, c'est-à-dire mettre en évidence le lien consubstantiel que cette figure entretient avec la figure du peintre, ce qui m'occupera. Donc, à l'origine, comme le montre la radiographie du tableau. Et là, je vous renvoie au catalogue absolument fondamental de Madame Hélène Toussaint pour l'exposition du centenaire de la mort de Courbet en 1977. Donc, comme le montre la radiographie du tableau, cette figure du chasseur, ainsi que deux autres figures, était absente. Courbet, dans sa longue lettre de l'automne à Champfleury, ne le mentionnait pas. Il n'était question que d'un pauvre vieux tout grelin, je ne sais pas ce que c'est qu'un vieux tout grelin, mais on comprend à peu près, un ancien républicain de 93, ce ministre de l'Intérieur, par exemple, qui avait fait partie de l'Assemblée quand on a condamné à mort Louis XVI, celui qui suivait encore l'an passé les cours de la Sorbonne, homme de 90 ans, une besace à la main, vêtu de vieilles toiles blanches rapiécées, chapeau brancard. C'est celui que vous voyez au-dessus du chasseur avec son chapeau, là, bizarroïde, là, habillé avec une toile, une sorte de toile écrue. À ses pieds se trouvent des défroques romantiques, explique Courbet, et Courbet ajoute, il fait pitié aux Juifs. Le Juif en question a été identifié à l'extrême gauche comme celui qui est debout avec son livre, comme Achille Fould. Dans un deuxième temps, Courbet a introduit le personnage du chasseur et de ses chiens. Et c'est désormais au pied du chasseur que sont les défroques romantiques. La modification à laquelle s'est livré Courbet sur sa toile en cours d'élaboration suscite d'elle-même de multiples commentaires. Je commencerai par dire quelques mots des défroques romantiques. Cette expression désigne les quatre objets d'abord regardés par le vieux 93 et qui ont ensuite été posés devant les pieds du chasseur. Il s'agit d'un chapeau noir à plumes, d'une guitare, d'un poignard et de ce qui semble être un masque. Ces objets appartiennent à l'attirail romantique des années 1830. Chapeau noir à plumes, c'est le chapeau que portent les conjurés dans Hernani. Guitare, c'est avec la mandoline qui lui est apparentée l'instrument de musique dont jouent les amoureux à Venise lors de leur sérénade. Poignard, c'est l'arme qui est maniée sur la scène du mélodrame ou dans les chroniques italiennes, entre autres. Masque, enfin, c'est l'un des accessoires obligés du théâtre populaire. Ces objets, peut-on également remarquer, se trouvaient aussi dans les tableaux de jeunesse de Courbet d'un romantisme flamboyant. Je vous renvoie par exemple au sculpteur ou au guitarero, 10 ans auparavant, en 1845. De tels objets ne sont plus aujourd'hui que des défroques, des signes, bref, des emblèmes qui signifient le romantisme de ces années-là et qui n'ont plus aucune autre réalité que symbolique. L'introduction du chasseur et la disposition des défroques maintenant à ses pieds infléchissent la signification. Ces défroques deviennent des dépouilles. Elles occupent en effet la place qui reviendrait normalement au gibier tué par le chasseur. Au lieu de lapins, faisans ou perdrix, ce curieux chasseur a rapporté de son expédition cynégétique un chapeau à plumes, une guitare, un poignard et un masque. Or, ce qui donne toute sa signification à cette étrange chasse, c'est que le chasseur en question a les traits de Napoléon III, identifiable sans aucune difficulté et de façon absolument incontestable. Sa présence a été expliquée, si on ose dire, de nombreuses manières, mais aucune ne me paraît satisfaisante. J'avancerai pour ma part que la présence de ce chasseur à qui sont donnés les traits de Napoléon III a une double signification politique et historique. Politique, ce chasseur est désigné par la critique de 1855 comme un braconnier, et il est loisible de voir en lui celui qui a confisqué la République, son braconnier. Ce genre d'interprétation avait été avancé quelques années plus tôt, lorsque l'on avait pu voir dans un enterrement à Ornans une allégorie de l'enterrement de la Deuxième République. Mais une lecture historique qui n'affirme pas la lecture précédente, au contraire, met plus profondément en évidence les enjeux sociocritiques du dispositif pictural imaginé par Courbet. Métaphoriquement, ce que dit le tableau à travers le groupe constitué du chasseur, de ses chiens et des défroques romantiques, c'est que, désormais, depuis la prise du pouvoir par Napoléon III, c'en est fini du romantisme. Celui-ci n'existe plus qu'à l'état de défroque, de dépouille. À l'appui de mon interprétation, j'attirais l'attention sur un point de détail. Tous les personnages, ceux de la partie gauche du tableau comme ceux de la partie droite, viennent d'un espace urbain et même parisien, à l'exception du chasseur qui, à l'évidence, vient d'une forêt. Est-ce que c'est la forêt de Saint-Germain, celle de Marly ou celle de Meudon ? Bon, celle que l'on veut. Mais bien plus vraisemblablement, parce que cela s'accorde à la textualité du tableau, le chasseur sort tout droit du paysage auquel travaille le peintre. Ce paysage de forêt est d'autant plus remarquable que, à cette époque, Courbet n'a pas encore composé de grands paysages comtois. Bon, bien sûr, il y a quelques paysages comtois qui ont été peints par Courbet, mais rien de semblable, par exemple, au grand paysage qui occupe la Curée en 1856-1855. Donc, à cette date, en 1855, un semblable paysage forestier ne peut avoir qu'une signification symbolique. J'y reviendrai. Pour l'heure, je terminerai sur ce point en réaffirmant que la présence de Napoléon III en chasseur n'est en aucune façon anecdotique, à plus forte raison satirique, mais qu'elle est intimement liée au système de la peinture élaboré par Courbet dans ce tableau, comme en témoigne à son niveau la relation métonymique entre le chasseur et la forêt qui est objet de peinture. Je convoquerai maintenant deux autres éléments latéraux pour confirmer ma lecture. D'abord, la modification introduite par la position des défroques romantiques au pied du chasseur Napoléon III, et non plus au pied de ceux du vieux révolutionnaire. On est passé d'une révolution à l'autre, de 1793 à 1848, ce qui a pour effet de lier beaucoup plus étroitement la question du romantisme à l'histoire présente. C'est que par rapport à 1793 comme référence, le romantisme en 1855 n'a guère de signification, alors que par rapport à 1848, il en va tout autrement, j'y arrive. La relation du romantisme à 1848 est proprement critique, et pas seulement parce qu'elle est d'actualité. Elle est fondatrice philosophiquement de ce qui est en train de se mettre en place en ce début des années 1850. Les conditions elles-mêmes de l'art et plus généralement de la représentation ont changé. Ce n'est pas dire que l'on ne peut plus peindre aujourd'hui comme on peignait il y a 25 ans, que les temps ne sont plus les mêmes, etc. C'est dire que la réalité, le réel de la réalité plus exactement, ayant disparu, le mode de représentation elle-même de la réalité s'est altéré. Que ce mode de représentation de la réalité s'appelle désormais réalisme, quand auparavant il avait nom romantisme, n'implique aucunement que ce soit la réalité, plutôt que la chimère par exemple, qui soit promue objet esthétique. Cela signifie simplement que le réalisme est désormais devenu la poétique de la réalité, quand autrefois c'était le romantisme. Une simple question d'appellation. Va exactement dans le même sens le second élément latéral que je prendrai en compte, le sous-titre de l'atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique. Comme le tableau a été achevé et exposé en 1855, cette phase de 7 années a donc commencé en 1848. De rechef est inscrite dans le tableau la relation consubstantielle entre peinture et histoire. Cette mention en creux 1848, qui a une valeur oppositionnelle en plein empire autoritaire, n'a pas la valeur d'une datation. Elle est un marqueur sociocritique qui dit la mutation de la figurabilité. Avant d'en venir à la question essentielle de l'allégorie réelle, je conclurai sur l'antiromantisme et le réalisme de Courbet dans l'atelier du peintre. L'un et l'autre, antiromantisme et réalisme, sont étroitement associés. Mais leur association n'est pas à imputer à un parti pris esthétique. Elle résulte d'un constat politique et historique. Un monde a disparu, celui du romantisme, emporté par la révolution de 1848 et le coup d'État de 1851. Courbet prend acte de cette nouvelle situation. Il en prend acte au nom de raisons historiques, Cela n'empêche pas qu'elles interfèrent avec les convictions politiques socialistes de Courbet, mais celle-ci me semble être seconde. Cela a des conséquences philosophiques qui remettent en cause les conditions mêmes de représentation de la réalité. C'est ce qu'implique très précisément l'expression d'allégorie réelle. Elle peut se comprendre de multiples façons, ou ne pas se comprendre. De manière révélatrice, le théoricien psychorigide du réalisme, Champfleury, écrit au sujet de cette expression « Voilà deux mots qui jurent ensemble et qui me troublent un peu. Il faudrait prendre garde de faire plier la langue à des idées symboliques que le pinceau peut essayer de traduire, mais que la grammaire n'adopte pas. Une allégorie ne saurait être réelle, pas plus qu'une réalité, tout ça est en italique, ne peut devenir allégorique. » C'est dans la lettre Madame Sand sur Courbet dans Le Réalisme en 1857, mais cette lettre est datée de septembre 1855. En fait, une allégorie réelle, c'est d'abord une allégorie qui n'est pas académique, comme à l'époque classique, et qui en particulier ne recourt pas à la mythologie. Elle est réelle en ce sens qu'elle emprunte ses éléments à la réalité. Courbet ne l'a pas inventé. La liberté guidant le peuple de Delacroix est une allégorie réelle. Mais dans le contexte de l'exposition de Courbet en 1855, l'expression d'allégorie réelle renvoie forcément à la question du réalisme. Il ne s'agit pas d'une allégorie réaliste, ce qui n'a guère de sens, mais d'une allégorie du réalisme. L'expression est de Michael Fried dans son livre sur Courbet, qui a pour objet de mettre en question les conditions de possibilité de la représentation picturale sur le mode du réalisme. Et ce qui est en jeu dans ce tableau, c'est ensemble et de manière indécidable la représentation de la réalité et les conditions mêmes de la représentation de cette réalité. Dans cette perspective, c'est la réalité qui est constituée comme objet problématique. Doublement problématique. Dans l'ordre de la thématique et dans l'ordre de la poétique. Dans l'ordre de la thématique, Courbet donne à voir la réalité telle qu'elle, la réalité de son atelier, les gens qu'il fréquente dans la partie droite du tableau et ceux qui sont représentés par le peintre dans la partie gauche. Dans l'ordre de la poétique, Courbet met en œuvre une peinture qui refuse l'idéalisation en se voulant réaliste. Que thématique et poétique soient indissociables l'une de l'autre tient à la nature allégorique du tableau. L'allégorie, en effet, est à la fois le procédé et le résultat. Avec ce tableau, Courbet fait la preuve esthétique du réalisme. Alors, fini la peinture. Je vais vérifier maintenant ces analyses en me référant à un contemporain de Courbet, Baudelaire, celui qui fait paraître dans la revue des Deux Mondes, en cette même année 1855, une plaquette intitulée « Les fleurs du mal » et qui rend compte du compte-rendu de l'exposition universelle. Pour l'occasion, pour ce compte-rendu de l'exposition universelle, Baudelaire publie deux articles dans Le Pays, 26 mai et 3 juin 1855, consacrés, le premier à une réflexion sur la notion de bizarre, le beau est toujours bizarre, et le second à Delacroix, puis un autre article dans Le Portefeuille, 12 août 1855, qui est un éreintage féroce d'Ingres. Il n'y a aucun article sur Courbet, pour des raisons idéologiques sans doute, et on peut le regretter, et d'autant plus qu'avaient été admis à l'exposition universelle 9 tableaux de lui, dont la magnifique rencontre, qui était vite surnommée « Bonjour, Monsieur Courbet ». Pourtant, Baudelaire trouve le moyen de lui consacrer une page entière dans l'article du Portefeuille à la faveur d'un extravagant parallèle entre lui et Ingres. Alors, cette page se trouve dans l'édition de la Pléiade de Pichois, page 585-586, au tome 2, évidemment. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette page extrêmement contournée, pour ne pas dire tordue. Je n'isolerai que deux points. Le premier est que Courbet est désigné comme un 48 art. Ses débuts se sont produits avec l'allure d'une insurrection. Il est un puissant ouvrier, une sauvage et patiente volonté. C'est un massacreur de facultés. Indépendamment du discours qui est tenu, des mots comme insurrection, ouvrier, sauvage, massacreur appartiennent à la sémantique de 1848. Et je renvoie évidemment au grand livre de Dolfeler, Le spleen contre l'oubli, juin 1848. Dans la première partie de cet ouvrage est faite une magnifique sémantique de 1848. Et donc ces mots suggèrent que Courbet est un barbare de 1848, quasiment un insurgé de juin. Bon, on sait par une lettre du 26 juin 1848 à ses parents que Courbet n'a pas participé aux journées de juin. C'est ce qu'il leur écrit en tous les cas. Je crois que c'est juste. Dans la correspondance de Courbet, ça se trouve page 76. Second point, dans tout ce parallèle où Courbet est apparemment stigmatisé comme un anti-surnaturaliste, il n'est question que du réalisme. Seulement, le mot n'est pas employé une seule fois, pour des raisons idéologiques, aussi bien que philosophiques et esthétiques. Arriver à penser le réalisme, tel semble être le propos de Baudelaire, mais cela suscite chez lui des résistances de tous ordres et l'amène à adopter une argumentation filandreuse et tortueuse. Ces deux points, la référence à 1848 et la question du réalisme, sont nettement liés entre eux dans la peinture de Courbet. Et ce qui apparaît, c'est que les options esthétiques illustrées dans l'atelier du peintre sont historiquement et politiquement motivées. De la sorte, la présence de Napoléon III sous les traits d'un chasseur est parfaitement compréhensible. Elle définit de manière critique et pas seulement satirique la place du pouvoir né de la catastrophe de décembre dans la reconfiguration d'ensemble du système philosophique et idéologique de la réalité et de sa représentation. Elle légitime tout spécialement le réalisme comme nouvelle poétique de la réalité et conjointement dénonce le romantisme comme une poétique qui n'est plus adaptée parce qu'elle n'est plus en prise sur la réalité. Et dans ces conditions, le réalisme est moins un anti-romantisme qu'il n'est un contre-romantisme. C'est le point de vue de Courbet lui-même. En effet, le catalogue de l'exhibition en 1855 s'ouvrait sur une espèce de manifeste d'une page intitulé « Le réalisme », je l'ai mentionné tout à l'heure, dont la première phrase renvoyait significativement au romantisme. « Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantique ». Bon, il ne m'importe pas que Courbet ici se défende, comme se sont défendus les romantiques de 1830, de s'être vu imposer un titre qui n'était peut-être pas le sien ou qu'il trouvait réducteur et simplificateur, source de multiples malentendus. Davantage, ce qui me retient, c'est le parallèle qu'il instaure entre lui-même et la génération romantique qu'il précède, comme si son entreprise réaliste ne pouvait se penser historiquement en dehors du rapport au romantisme. Pour conclure, je me projetterai 4 ans plus tard, en 1859, lorsque Baudelaire publie le poème du Cygne. Par bien des aspects, ce poème est une allégorie réelle, et il serait possible d'en faire une lecture courbettienne. Ce qui me retiendra, c'est qu'il met en œuvre une interrogation comparable à celle de l'atelier du peintre sur la réalité et sa représentation, sur la dimension allégorique de celle-ci. « Tout, pour moi, devient allégorie. » Et dans la même référence tendue au romantisme. Car dans ce tableau parisien, qui est la plus belle illustration de la modernité baudelairienne, telle qu'elle est définie par Baudelaire lui-même à la même époque dans le peintre de la vie moderne, c'est au bout du compte sur l'horizon romantique, ou plutôt sur l'horizon du romantisme, que se détache cette modernité. Voici le dernier quatrain du poème. « Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. » Le corps est l'instrument romantique par excellence. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Mais dans ce poème dédié à Hugo, il renvoie évidemment à Hernani. Il est une défroque romantique. Il n'est plus rien aujourd'hui, excusez-moi, qu'un signe. Le signe d'une époque révolue, d'un temps heureux où les littérateurs étaient les uns pour les autres, une société que les survivants regrettent et dont ils ne trouveront plus l'analogue. La mélancolie que sa musique exprime est celle de cette disparition, de cette perte irrémédiable d'un autrefois qui était l'autrefois du romantisme. Il n'en reste plus que le souvenir, lequel doit être cherché dans la forêt. C'est, dans tous les sens de l'expression, le seul point de fuite possible. Alors que le poème avait jusqu'à présent la ville pour décor, la dernière strophe procède à une ouverture sur l'espace de la nature. C'est tout à fait semblable à ce qui se produit dans l'atelier du peintre, dont le centre est occupé par la toile à laquelle travaille Courbet et qui représente un paysage forestier. Dans la tension entre ville et nature, c'est moins l'opposition de deux lieux qui est mise en scène que de deux imaginaires, et en fin de course, de deux régimes d'historicité, celui du romantisme et celui du post-romantisme. Post-romantisme et non pas modernité, pour éviter de retomber dans la vulgate tendancieuse qui a cours depuis plusieurs décennies, selon laquelle la modernité mettrait fin au romantisme. Dans mon esprit, la modernité n'est pas l'antithèse du romantisme, mais un de ces infléchissements au lendemain de 1848. Introduire le concept de réalisme permet en tout cas de déjouer la fausse opposition entre romantisme et modernité, dans la mesure où ce concept de réalisme, qui se problématise dans la double relation qu'il entretient au romantisme et à l'antiromantisme, ce concept donc de réalisme contribue, par cette référence au romantisme même, à réhistoriser la modernité comme un de ses moments. Si la caractéristique de celle-ci est le passage, ce n'est pas à la manière d'un aérolithe. Son passage est trace. Trace inscrite dans l'histoire, elle est la mémoire du présent et signifie la recomposition philosophique, politique, idéologique et esthétique d'un monde qui est condamné à faire l'expérience du spleen contre l'oubli. Je vous remercie.